Radio Vatican, France et Afrique.
Fidèles auditeurs, bienvenue à l'écoute de cette édition de notre programme. Publication ce 25 mars par le pape François de Vox Estis Lux Mundi, la procédure contre les abus. Après près de 4 ans d'expérimentation, une nouvelle version actualisée des normes pour la prévention et la lutte contre les abus sexuels à l'encontre des mineurs et d'adultes vulnérables a été publiée. Ce document a été rendu public ce samedi. Nous y reviendrons en détail dans la semaine du pape. L'actualité sociopolitique africaine nous conduira au Rwanda où nous parlerons de la décision du gouvernement de synchroniser les dates de ses élections parlementaires et présidentielles. Nous nous rendrons également en Algérie, au Niger, au Sénégal, entre autres. Clôture à l'Université catholique d'Afrique centrale de la semaine écologique ouverte lundi dernier. Nous recevons dans la deuxième partie de cette édition le père Epiphane Kenhon, vice-recteur de cette institution qui nous fera les points. C'est tout pour le titre. Les détails dans quelques instants.
Radio Vatican, France et Afrique, Jacques N'Gol.
Commençons cette édition de notre programme avec la semaine du pape. Christian Combe.
Ouvrons cette rétrospective des activités du pape de la semaine avec la publication samedi d'un motu proprio qui met à jour Vos Estis Lux Mundi du 7 mai 2019. Des nouvelles normes sont introduites. Elles concernent notamment la responsabilité des laïcs modérateurs des associations internationales de fidèles reconnues par le Saint-Siège. Les détails avec Jean-Charles Puzzolu.
Vos Estis Lux Mundi est maintenant une loi universelle applicable au sein de l'Église catholique. Après 4 ans d'existence à titre expérimental, le texte s'installe dans sa version définitive avec la mise à jour publiée samedi 25 mars par François. La principale nouveauté concerne les laïcs ayant ou ayant eu des responsabilités d'associations internationales de fidèles. Ils ont désormais le devoir de suivre les mêmes procédures que les évêques et les supérieurs religieux lorsqu'ils sont à connaissance de faits répréhensibles. À l'inverse, la procédure s'applique aussi à leur encontre pour les actes qu'ils auraient commis pendant qu'ils étaient en fonction. Parmi les autres modifications introduites, on retiendra par exemple la norme concernant les adultes vulnérables. Elle s'applique désormais aux personnes ayant habituellement un usage imparfait de la raison. On retiendra aussi que la protection des plaignants est étendue à la personne offensée et aux témoins. Et puis, l'obligation faite aux diocèses et éparchies de mettre en place des organismes et des bureaux facilement accessibles au public pour recevoir les plaintes. La nouvelle version du texte entrera en vigueur le 30 avril prochain. Elle confirme la volonté du pape François de poursuivre la lutte contre ces crimes.
Merci Jean-Charles Puzzolu. Le même samedi, le pape a rencontré quelques 2000 fidèles des paroisses de San Giovanni et Passirana d'Oro dans la province de Milan. La paroisse est un lieu pour se sentir aimé, pour élargir le cercle en cherchant des points communs plutôt que des raisons de division, leur a rappelé François. L'évêque de Rome a souligné que les réalités différentes et la variété des communions sont la richesse de l'Église, un moyen plus puissant que les paroles pour annoncer l'Évangile. Le Saint-Père a également reçu en audience samedi M. Régis Kevin Bakiono, nouvel ambassadeur du Burkina Faso près le Saint-Siège, venu présenter ses lettres de créance. Il a également reçu M. Paulino Domingo Batista, arrivé au terme de sa mission comme ambassadeur de l'Angola près le Saint-Siège. Vendredi matin, le Saint-Père avait rencontré les familles de mineurs ayant péri dans des mines de charbon en Pologne au mois d'avril l'année dernière. Il avait assuré ces familles endeuillées de sa prière et de sa compassion. Plusieurs audiences étaient inscrites au programme du pape jeudi. François avait notamment reçu les participants au 33e cours de formation sur le fort interne organisé par la pénitentiaire apostolique. Dans son discours, le pape avait insisté sur la miséricorde comme caractéristique essentielle du sacrement de réconciliation. Le Saint-Père avait également rencontré les participants à l'assemblée plénière de la Commission des épiscopats de l'Union européenne. Il avait attiré leur attention sur 2 défis urgents auxquels fait face le continent européen, le rêve de l'unité et le rêve de la paix, qui correspondent aux 2 grands rêves des pères fondateurs de l'Europe, avait déclaré François. À l'audience générale de mercredi, le pape était revenu sur le témoignage comme première forme d'évangélisation, s'appuyant sur Evangelii Nuntiandi, exhortation apostolique du pape Paul VI, qui n'a rien perdu de son actualité selon François. Mercredi 22 mars était aussi la journée mondiale de l'eau. L'eau ne peut être l'objet de gaspillage, d'abus ou un motif de guerre, avait rappelé le pape, souhaitant que ce bien primaire soit préservé pour le bien de notre génération et de toutes celles à venir. En début de semaine, l'évêque de Rome avait reçu lundi en audience les forains italiens, les encourageant à toujours garder leur cœur et leur vie ouverte à une perspective de foi qui naît de la rencontre avec le Christ. Le pape François avait également rencontré les capitaines régents de la République de Saint-Marin, Maria Luisa Berti et Manuel Chavata.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Ouvrons la page de l'actualité sociopolitique africaine. Le gouvernement du Rwanda a décidé de synchroniser les dates de ses élections parlementaires et présidentielles. C'est ce qu'a indiqué le cabinet du Premier ministre dans un communiqué, ce qui les repousserait à 2024. Lors d'une réunion vendredi présidée par le président Paul Kagame, les ministres avaient approuvé sa proposition d'amender la constitution permettant l'harmonisation des calendriers des élections parlementaires et présidentielles, a-t-il précisé. Les élections devraient donc en principe avoir lieu en août 2024, la date initialement fixée pour l'élection présidentielle, retardant ainsi le scrutin parlementaire jusque-là prévu pour septembre 2023. Après plus de 3 années d'emprisonnement, d'assignation à résidence et d'interdiction de quitter le territoire, le président Abdelmadjid Tebboune a finalement ordonné la levée de l'interdiction de quitter le territoire national imposée à Rachid Nekaz depuis 2019, a fait savoir samedi un membre de l'opposition. L'opposant algérien Rachid Nekaz, libéré en janvier à la faveur d'une grâce présidentielle et se disant malade d'un cancer, a annoncé que le chef de l'État avait ordonné la levée de l'interdiction de se rendre aux États-Unis où se trouve sa famille pour se faire soigner. L'armée algérienne a affirmé avoir tué la semaine dernière 79 terroristes lors d'une opération de ratissage dans l'ouest du Niger et jusqu'au Mali voisin après le meurtre d'au moins 17 militaires nigériens en février, a annoncé vendredi le ministère de la Défense. Cette opération a également permis la destruction d'une centaine de motos et de moyens de communication et de récupérer des armes et des munitions, a précisé le ministère. Une poursuite a été engagée après que des éléments de l'opération anti-djihadiste nigérienne Al-Mawa ont été pris à partie le 10 mars par un groupe armé terroriste dans la zone de Tilowa située dans le département de Bani Bangou, frontalier du Mali, selon cette source. Rendons-nous au Sénégal. L'opposition a maintenu la pression contre le pouvoir vendredi en appelant à des nouvelles journées de mobilisation à l'approche du procès à haut risque d'un de leurs leaders dans 6 jours. La coalition Yewi-Askan-Wi a appelé à des manifestations mercredi à Dakar, le 30 mars et le 3 avril sur tout le territoire pour réclamer la libération dans les plus brefs délais de tous les détenus politiques et soutenir l'opposant Ousmane Sonko dont le procès doit se poursuivre le 30 mars. Les autorités algériennes ont annoncé vendredi la saisie de plus d'1,6 million de capsules de psychotropes lors d'une importante opération antidrogue menée par les services de la Direction générale de la Sûreté nationale, DGSN. Cette saisie s'est effectuée mercredi à la veille du mois de Ramadan. Selon les autorités, ces capsules de psychotropes sont destinées à des contrebandes dans les régions d'Annaba, Oran, Ouargla et Alger. La police sierra-léonaise a contesté vendredi un rapport d'Amnesty International qui condamnait son recours excessif à la force lors des émeutes meurtrières d'août 2022, estimant qu'il était biaisé et partial. Lors de ces manifestations contre la vie chère qui avait tourné à l'émeute, 6 policiers et 27 civils ont été tués selon un bilan officiel. L'usage de la force était proportionnel, raisonnable et nécessaire, a estimé la police dans un communiqué. La police a aussi reproché à Amnesty de ne pas avoir fait cas de la sauvagerie avec laquelle certains policiers ont été tués ce jour-là. Pour produire ce rapport publié lundi, Amnesty International dit s'être entretenu avec des témoins, des proches des victimes, des officiels, la police et la société civile. Le père jésuite Martin Baati nous introduit à la méditation avec les lectures du cinquième dimanche de carême de l'année liturgique A.
Je suis la résurrection et la vie. Mes chers frères et sœurs, les lectures de ce cinquième dimanche du temps de carême nous invite à méditer sur la vie après la mort. Elle nous parle toutes de la résurrection et de la vie. Le processus de la vie qui se transforme, la mort qui cède la place à un nouveau mode de vie, la mort qui est vaincue par la vie. Dans l'Évangile, Jésus affirme qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui croit à lui, même s'il meurt, vivra. Ce à quoi Marthe répond avec une foi profonde. Oui, Seigneur, je crois. La résurrection de Lazare montre le pouvoir de Jésus sur la mort. Celui qui croit en lui vivra pour toujours et la mort devient ce passage vers l'éternité. Grâce à notre foi vivante en Jésus, tous nos corps physiques seront ressuscités lors de la résurrection finale. En ce cinquième dimanche de carême, nous sommes appelés, comme Lazare, à venir dehors, à sortir de nos tombeaux d'injustice, de haine, de division, d'égoïsme, de méfiance, de refus de l'autre, afin de rencontrer le Christ qui nous attend, car il dit « Viens ». Dehors. Jésus est le maître de la vie et de la mort. Ressusciter d'entre les morts, être pleinement vivant, signifie être dans une relation vivante et aimante avec Jésus qui nous enseigne que la résurrection et la vie sont un appel à nous unir à lui. La résurrection et la vie nous donnent la bonne relation avec le Christ et l'Esprit Saint. En ces jours, nous faisons notre la profession de foi de Marthe. Je crois, Seigneur, tu es le Fils de Dieu qui vient sauver le monde. Amen.
Invité du jour.
L'Université catholique d'Afrique centrale, UCAC, a organisé du 20 au 25 mars une semaine écologique. Ouverte lundi dernier, elle a été clôturée ce samedi. Dans cette partie de l'interview accordée à Vatican News, le père Epiphane Kéon, vice-recteur de l'UCAC, nous fait le bilan de cette semaine. Il invite à manifester des gestes susceptibles de rendre l'environnement plus agréable et réitère la détermination de l'UCAC à s'engager davantage dans la lutte pour la sauvegarde de notre maison commune. On l'écoute.
La première activité que nous avions eue le lundi dernier, c'est justement ce quart d'heure écolo. Ensuite, il y a eu la célébration d'une messe pour la conversion écologique et qui a eu lieu également simultanément sur le campus de Nkobison, c'est le campus mère de notre institution. Après la messe, il y a eu un geste de reboisement sur le campus de Nkobison et de Kounou. Nous avions planté quelques arbres en compagnie de toute la communauté universitaire représentée. Ça, c'est pour la première journée. La deuxième journée clé, c'est la journée centrale de cette semaine écologique, marquée par une conférence sur cette thématique-là, la conversion écologique, mais particulièrement sur le service learning à l'UCAC. Comment est-ce que l'implication des étudiants est mise en relief? Ensuite, une introduction au tri sélectif donnée par le coordinateur d'une association appelée ici Action pour la restauration de la nature. Parce que nous avons acquis des bacs à tri sélectif que nous aimerions donner officiellement aux résidences de nos campus. Et ça permet à ce que nos étudiants ne puissent pas simplement apprendre théoriquement ce qui en est du tri sélectif, mais aussi mettre cela effectivement en application. Enfin, la journée du samedi 25 mars va marquer par une activité simultanée appelée Eco-Jogging. C'est-à-dire que nos différents campus mobilisent des étudiants, le personnel administratif, le personnel enseignant pour marcher et être attentif à l'entretien de l'environnement en retenant l'attention des passants sur l'importance de la propreté, en les sollicitant pour se joindre au groupe pour ramasser des ordures, pour poser le geste qui change l'environnement. Dans un sourire, dans une attention, dans une communication qui met tout le monde à l'aise.
Aujourd'hui, plus que jamais, la question écologique est une réalité qui interpelle tout le monde. En tant qu'institution éducative, quelle est la politique de l'UQAC dans cette lutte?
La politique de l'UQAC réside dans l'application de la pédagogie du service learning.
De quoi s'agit-il?
Il s'agit de l'apprentissage par le service. En d'autres termes, la formation dans nos universités catholiques voudrait mettre l'accent sur l'implication directe des étudiants et étudiantes dans l'engagement concret dans leur milieu de vie. Ce qu'ils apprennent à l'école, ils l'apprendraient mieux dans le service rendu dans leur milieu respectif de vie. Et c'est pour cela que l'apprentissage par le service est la pédagogie que nous adoptons de façon systématique dans la formation des étudiants au sein de nos campus. Et c'est dans cet esprit-là, puisque la pédagogie du service learning met en relief l'implication des parties prenantes pour chaque action à mener, je donne comme illustration le fait que pour un cours, par exemple, de la RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, les étudiants sont mobilisés pour aller dans les quartiers, mobiliser le quartier sur des questions communément admises, des situations difficiles, des problèmes qui se posent dans chaque quartier. Ils essaient de pouvoir participer avec les habitants du quartier à la résolution du problème posé et à tout mettre en place pour que, après leur passage, le processus puisse se perpétuer.
Oui, ça veut dire que de cette même manière, l'UQAC implique la population locale dans cette lutte.
Évidemment, puisque le service learning est un service social défini qui nécessite une suite. Ce n'est pas une action ponctuelle comme vous cotisez de l'argent pour aller donner à une communauté ou à des orphelins de passage. Et c'est une dynamique que nous aimerions mettre en place à partir de toutes les formations que nous donnons à l'Université catholique d'Afrique centrale, cours en classe, mais à partir du terrain, de façon concrète, dans la mobilisation de la population à entrer dans ce geste qui sauve et qui entretient vraiment notre environnement.
Quelles sont vos invitations pour plus de prise de conscience face à cette réalité écologique, surtout par rapport au changement climatique?
Quand nous parlons de changement climatique, c'est un gros mot qui peut distraire les gens du geste qui sauve. Donc moi, je voudrais descendre pour parler simplement du geste écolo qui convient à tout un chacun de nous et auquel chacun peut être sensible. Il s'agit de pouvoir accorder quelques instants durant la journée que l'on peut appeler l'instant écolo, qui consiste à voir en quoi est-ce que le geste positif que je pose sauve l'environnement, rend l'environnement plus vert, et puisque le vert est la couleur de la vie, cela, l'entretenir, c'est entretenir la vie, et cet entretien de la vie ne peut être que durable. Et c'est cette perspective, c'est dans cette perspective que je voudrais inviter tout un chacun de nous à poser le geste qui sauve par l'instant écologique que nous nous permettons d'avoir au quotidien. Et nous restons très déterminés à poursuivre cette initiative de l'instant écolo, nous permettant de poursuivre à la suite du Saint-Père ce qu'il appelle justement la sauvegarde de notre maison commune.
Le père Epiphane Kéon, vice-recteur de l'UQAC, dans un entretien réalisé par Jacques Ngol.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs fidèles auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de notre programme. Jacques Ngol, qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi avec attention. Restez toujours branchés au programme de Radio Vatican. Prochain rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Au revoir.